podcasts de Radio Vatican.
Il y a 50 ans, le 5 juin 1967, après plusieurs semaines de tensions croissantes avec ses voisins arabes, Israël lance une attaque préventive de son aviation sur les forces égyptiennes massées dans le Sinaï. Il ne faudra ensuite pas plus de 6 jours pour que l'État hébreu s'empare sans coup férir du Golan, du Sinaï, qu'il rétrocédera ensuite à l'Égypte lors des accords de Camp David en 1979, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Vécu comme une amère humiliation par les Arabes, comme une victoire miraculeuse et presque divine par Israël, cette fameuse guerre des 6 jours marque un tournant majeur dans l'histoire du Proche-Orient. Elle consacre la puissance militaire israélienne, détruit les rêves panarabistes de Nasser et permet l'émancipation des mouvements palestiniens de la tutelle arabe. Mais ce conflit signe surtout le début de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens, deux phénomènes qui constituent aujourd'hui les principaux obstacles à la paix et à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. L'éclairage de Pierre Azou, directeur de recherche à l'Institut de recherche de l'École militaire de Paris, auteur de La guerre des 6 jours, aux éditions Perrin.
C'est certainement un événement marquant, à la fois dans l'histoire militaire, parce que c'est vrai que sur le plan de la stricte performance militaire, l'armée israélienne a réussi à vaincre l'ensemble de ses voisins arabes donc en 6 jours et à récupérer et conquérir l'ensemble des territoires, qui semblait à l'époque la menacer, mais c'est surtout une nouvelle donne militaire et géopolitique au Proche-Orient, parce que finalement, alors qu'en mai 1967, Israël avait l'impression de se sentir assiégé sur un territoire à la fois étroit, difficile à défendre, etc., en l'espace donc de 6 jours, Israël conquiert les territoires donc palestiniens, mais aussi de certains de ses voisins arabes, notamment le Golan syrien et la péninsule du Sinaï égyptienne, qui lui permet donc de s'offrir un glacis protecteur et donc, à partir de là, d'aborder, entre guillemets, sereinement l'avenir, puisqu'à partir de là, l'armée israélienne et les généraux israéliens vont non plus se focaliser sur la conquête de territoires, mais au contraire sur la défense des territoires conquis.
La guerre des 6 jours a apporté avec elle, ou plutôt a suscité l'émergence d'un messianisme religieux de plus en plus prégnant maintenant au sein de la société israélienne. Et ce messianisme est porteur, en tout cas forme une base pour le phénomène de la colonisation. Est-ce que la colonisation, selon vous, qui constitue aujourd'hui un obstacle principal pour la paix, est-ce que c'est une fatalité aujourd'hui?
C'est pas une fatalité, mais simplement c'est un problème à la fois essentiellement qui est devenu un problème politique, beaucoup plus que religieux. Pourquoi? Parce que pratiquement 650 000 Israéliens juifs vivent dans les territoires occupés, qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou de Jérusalem-Est, sans même parler du plateau du Golan. La bande de Gaza ayant été évacuée donc en 2005. Ce qui fait que donc ces 650 000 citoyens juifs qui vivent dans les territoires occupés représentent à peu près 10% de la population juive israélienne. Ce qui veut dire que vous avez un groupe de pression ou un groupe politique de 10% de la classe politique qui évidemment donc n'est pas forcément enclin au compromis et n'a pas forcément envie de se retirer. Là encore, il faut distinguer entre ceux qui sont présents, disons ceux qui ont décidé de coloniser ces territoires pour des raisons idéologiques et religieuses. Et aussi, il ne faut pas non plus les oublier, un certain nombre qui le sont pour des raisons pratiques et pour des raisons économiques. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien, et ça de très longue date, évidemment, offre des facilités très importantes, notamment aux nouveaux arrivants et à tous ceux qui émigrent en Israël en provenance des territoires de l'ancienne Russie, des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, pour s'installer à très peu de frais dans des territoires où finalement, à la fois la terre et les logements sont proposés à des prix défiant toute concurrence.
Cette guerre des 6 jours a toujours une place importante dans l'imaginaire israélien. Qu'en est-il aujourd'hui?
Je crois que c'est, j'allais presque dire plus que jamais, c'est-à-dire qu'en fait dans la société israélienne il y a un petit peu deux mouvements clés. La guerre des 6 jours a été totalement mythifiée comme un petit peu la victoire quasi divine qui permet au nouveau peuple juif qui a pris son indépendance en 1948, disons, de se poser durablement dans la région. Et cette victoire est mythifiée, quasi divinisée, etc. Et c'est de cette victoire justement que découlera pendant un certain nombre d'années le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne qui se fracassera 6 ans plus tard, pendant la guerre du Kippour, qui est justement l'autre événement marquant sur le plan géopolitique et militaire, qui marque finalement l'échec de cette politique d'expansion israélienne. Et donc on a un peu du côté, dans la société israélienne, ces deux mythes, c'est-à-dire à la fois le mythe de la victoire, celui de 1967, et le mythe de l'échec, c'est celui de la guerre du Kippour de 1973. Et donc autant le mythe de l'échec est fort, et donc pour compenser ce mythe fort de l'échec, il faut un mythe fort de la victoire. Et donc c'est ce qui fait que cette guerre des six jours de 1967 est toujours présentée sous un jour extrêmement favorable en Israël aujourd'hui, même si un certain nombre d'historiens et de journalistes qui essayent de revisiter de manière plus objective l'histoire de l'État d'Israël pointe également du doigt les problèmes et les comportements non conformes qui ont pu exister à ce moment-là pendant la guerre des six jours et montrer tout simplement que c'est peut-être paradoxalement cette grande victoire qui provoquera ensuite sur le long terme les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui Israël, c'est-à-dire notamment la colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc quelques semaines seulement après la victoire de juin 1967, Moshe Dayan, qui est le ministre de la Défense israélien alors, général auréolé de tous ses succès de 1948, 1956 et 1967, c'est lui le premier qui propose finalement la rétrocession des territoires en échange de la paix. Donc c'est le premier qui va voir Golda Meir, qui va voir les gouvernants, les dirigeants politiques israéliens en leur disant « Nous sommes victorieux, c'est paradoxalement le bon moment pour faire la paix avec les Palestiniens et les Arabes, retirons-nous des territoires conquis quelques semaines auparavant et échangeons la paix avec cela. » Mais Golda Meir, la première ministre de l'époque, refuse finalement de s'en remettre à cette option. La classe politique dirigeante israélienne s'arc-boute sur la défense de ces territoires conquis, et ouvrant la voie bien sûr donc à la colonisation qui finalement est assez lente au départ puisque elle commence dans les mois qui suivent la guerre des six jours et elle va être assez lente jusqu'en 1973 et la guerre du Kippour. Et c'est après la guerre du Kippour en 1973 finalement que ce phénomène donc de colonisation va s'accélérer jusqu'à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
Alors, la guerre des six jours a également porté un coup fatal au nationalisme arabe. Avec quelles conséquences du coup pour les Palestiniens?
Jusqu'en 1967, les Palestiniens se disent la solution à l'existence, on va dire, légale et institutionnelle d'un État palestinien et le fait finalement des États arabes, c'est-à-dire que la communauté palestinienne, y compris Yasser Arafat, fait confiance entre guillemets aux États arabes pour restaurer le peuple palestinien dans ses droits sur les terres palestiniennes. À partir de 1967 et donc de la défaite cinglante des armées arabes et donc des régimes arabes qui sont voisins d'Israël, la mouvance palestinienne et notamment les combattants palestiniens tirent la conséquence en se disant « nous ne pouvons plus compter sur les États arabes voisins, donc nous ne devons plus compter que par nous-mêmes ou sur nos grands sponsors régionaux, par exemple l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, et puis les États-Unis ou à l'époque bien entendu donc c'est l'Union soviétique. Et donc les Palestiniens finalement sortent d'un agenda on va dire purement local pour essayer d'internationaliser leur cause et donc se lancer en même temps dans de grandes opérations à la fois terroristes. Ce sont les Palestiniens qui vont, entre guillemets, innover en inventant, si l'on peut dire, les détournements d'avions et les grandes prises d'otages médiatisées pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale là-dessus. Jusqu'à l'escalade, évidemment, puisque plus les Palestiniens vont commettre d'attentats, évidemment, et plus en représailles l'armée israélienne va réagir de manière tout aussi brutale. Et donc c'est l'enchaînement perpétuel de la violence jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à la première intifada de 1988-1993, qui débouchera donc sur les accords de paix d'Oslo.
Alors, 50 ans après la guerre des six jours, quelles sont les perspectives pour la paix aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens?
Je crois que tout simplement, en fait, le paradoxe, c'est que le temps ne semble pas encore venu. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait accord sur le conflit israélo-palestinien et sur le dossier de l'avenir de la Palestine, je crois qu'en fait, il faut une conjonction astrale favorable qui n'est manifestement pas présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut à la fois du côté israélien et du côté palestinien, deux personnages politiques clés qui soient à la fois charismatiques visionnaire et courageux, et c'est-à-dire qu'ils soient prêts à se sacrifier à la fois politiquement, voire même de sacrifier leur vie, pour faire des concessions réelles et indispensables, tant du côté israélien que du côté palestinien. Parce qu'évidemment, les concessions devront fatalement survenir des deux côtés. Elles devront être réelles des deux côtés pour aboutir à une situation négociée. Et l'histoire a montré que du côté arabe et du côté israélien, ceux qui faisaient des concessions, qu'il s'agisse de Yitzhak Rabin, de Anwar el-Sadat, prenaient le risque évidemment de se faire assassiner par des extrémistes de leur propre camp. Donc je pense que à la fois le premier ministre palestinien et le premier ministre israélien, quel qu'il soit, savent que s'ils en arrivent à une entente qui inclura forcément le retrait non pas de toutes les colonies israéliennes, mais d'une grande partie des colonies israéliennes de Cisjordanie, évidemment, ce jour-là, ces personnalités politiques prendront un très grand risque personnel. Et donc, pour qu'elles le prennent, il faut qu'elles aient à la fois le courage, le charisme et la vision pour prendre cette décision, l'imposer et être légitimes aux yeux de leur propre population. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ni du côté palestinien, ni du côté israélien, les personnalités au pouvoir sont dans cet état d'esprit-là.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.